Léon Blois, le passé du monsieur. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Victor Hugo. 80 000 francs, monsieur, vous ne vous embêtez pas. Et vous avez fait comme ça une centaine de lieues pour venir me les demander à moi. Vous avez pensé que je n'hésiterais pas une minute à dépouiller ma femme et les enfants que je pourrais faire encore pour payer les frasques de cette petite drôlesse que je ne reconnais plus du tout pour ma nièce, que je renie, vous m'entendez bien? Voyons, décidément, vous me prenez pour un jobard. 80 000 francs, mais pourquoi donc pas un petit million pendant que vous y êtes? Ces paroles raisonnables me furent dites il y a 15 ans par un gros vigneron de la Charente inférieure dont la large face ressemblait au derrière d'un singe papillon. Je ne peux pas dire que j'avais eu beaucoup de confiance en allant trouver ce marchand de vin richissime, jusqu'alors inconnu de moi. Je savais trop le dénuement proverbial des millionnaires et leur guigne atroce qui ne permet jamais que la plus mince partie de leur avoir soit disponible au moment précis où on les implore. Toutefois, l'énormité même de la somme à obtenir me faisait espérer au moins quelques égards. Mais dès le premier coup d'œil, j'avais eu le pressentiment de mon insuccès fatal et je n'avais accompli la démarche que pour libérer ma conscience. Démarche, il est vrai, des plus singulières. Il s'agissait de faire entrer dans cette futaille une quantité spécifique de désintéressement familial pouvant équivaloir à la 1/10 partie d'un million et j'étais à coup sûr l'ambassadeur le plus mal troussé pour ce genre de négociation. « Mon Dieu, monsieur, répondis-je, vous êtes vraiment trop aimable de ne pas lâcher tout de suite vos chiens sur moi ou de ne pas envoyer quérir les gendarmes. Cela m'encourage à vous rappeler que j'agis au nom d'une morte, c'est-à-dire pour obéir aux dernières volontés d'une malheureuse fille qu'on enterrait avant-hier. Je ne suis en cela, vous le sentez bien, qu'un mandataire bénévole qui s'est beaucoup dérangé. » Libre à vous de ne rien faire et même de renier, tant qu'il vous plaira, votre propre sang. Mais je suis très las de mon voyage et je m'étonne que vous ne m'ayez fait pas encore la plus légère démonstration d'hospitalité. » Ces derniers mots, tendant à prolonger l'entrevue de quelques heures durant lesquelles je m'efforcerai d'enlacer mon hôte, ne lui déplurent pas. Il s'adoucit, devint même cordial, et me fit déjeuner avec lui. Mais quelque allumante et suggestive que fût la table du viticole, mes finesses diplomatiques, aussi bien que mon éloquence attendrie, se trouvèrent inefficaces, ainsi que je l'avais prévu, et je n'emportai de cette visite qu'une confirmation plus amère de mon impuissance à pénétrer les carapaces des hippopotames ou des philosophes pachydermateux. L'histoire de la nièce est peut-être ce que j'ai connu de plus extraordinaire dans le lamentable. Elle se nommait Justine D. et mourut à 28 ans dans le plus horrible désespoir. Un tiers de cette existence trop longue fut exclusivement et vainement employée à la conquête d'un pauvre homme jugé par elle supérieur, qu'elle adora jusqu'au crime et dont elle voulut, à quelque prix que ce fût, devenir la femme. Notre fin de siècle, amincie et spiraliforme comme la queue d'un porc, doit offrir peu d'exemples d'un pareil ensorcellement. Le miracle, c'est que cette fleur de passion, cette passiflore d'amour, s'était développée dans l'humus le plus réfractaire, dans les conditions les plus défavorables qui se puissent imaginer. C'était une de ces vierges au cordeau, telles que le commerce des tissus ou le monopole des salaisons nous en conditionne, engendrées du flanc estimable d'un négociant qui avait toujours payé recta. Élevée par conséquent dans l'horreur sage des constellations et des auréoles, On devait naturellement ne supposer rien de plus rectiligne que ces sentiments ou ces transports. Son cœur avait été cultivé comme un jardin potager de peu d'étendue, où les moindres plates-bandes seraient calculées pour le pot-au-feu. Pas de ces fleurs inutiles dont l'éclat frivole ne profite pas. Tout au plus quelques violettes en bordure des haricots et de la salade pour ne pas exiler incomplètement la poésie. Deux ou trois tomes dépareillés d'Émile Souvestre ou du Grand Dumas, un recueil de morceaux choisis et la quotidienne lecture des faits divers du petit journal étanchaient surabondamment sa soif littéraire. Enfin, jamais fille n'avait paru plus désignée pour devenir l'ornement et la récompense d'un honnête homme. Je ne me charge pas d'expliquer les prodiges non plus que les mystères, et il ne faut pas compter sur moi pour une élucidation psychologique des histoires trop arrivées dont je me suis fait le narrateur. Ce qui est sûr, c'est que l'arbre donna des fruits qui ne permirent plus de le reconnaître, et que le potager minuscule produisit des fleurs étranges, probablement exotiques, à la place même où l'on s'attendait à voir sortir des navets ou des pommes de terre. Une héroïne, une véritable et scandaleuse héroïne d'amour, apparut tout à coup en cette Justine qu'on avait cru digne de s'élever jusqu'au traversin d'un homme d'affaires. Seulement, pour que la nature ne perdît pas tous ses droits, celui qu'elle aima beaucoup plus que sa propre vie était un médiocre parmi les médiocres, un employé blond qui raclait l'alto, l'achetait, l'échotait de petits paysages en savon et conservait à 30 ans le prestige du poil follet de l'adolescence. Ce basilic des demoiselles de comptoir lui donna l'illusion sublime. Et voici l'incroyable drame qui s'ensuivit. Narcisse Lépinoche, tel était le nom du vainqueur, ne refusait pas absolument d'épouser Justine. Autant celle-là qu'une autre, après tout. Mais n'ayant, hormis son emploi, que des échéances d'usurier pour tout capital et désirant au surplus jeter le filet quelque temps encore, il ne montrait aucune hâte fébrile d'enchaîner à son existence une jeune personne sans le sou dont la beauté n'avait rien de foudroyant. Je ne l'ai jamais cru sordide, mais un désintéressement héroïque n'était pas son fait. Et puisqu'on parlait d'entrer en ménage, la prudence rudimentaire n'exigeait-elle pas qu'on attendît au moins l'héritage de l'oncle Tiburce, qui gagnait 100 000 francs par an dans ces échats-là, et ne tarderait guère, sans doute, à quitter un monde où sa belle âme était en exil. Justine se trouvait en effet ruinée, depuis quelque temps déjà, par son imbécile de père, qui avait engagé toute sa fortune pour le percement du fameux tunnel sous l'Himalaya, destiné à relier l'Inde anglaise à la Mandchourie. L'insuccès colossal de cette entreprise, ayant précipité le spéculateur au plus profond des abîmes, la jeune fille vivait avec sa mère sur de misérables débris de l'opulence d'autrefois, se cramponnant à l'espoir de cet héritage bienheureux qui devait l'unir à son Lépinoche, qu'elle imaginait chaque jour plus beau, plus idolâtrable. Car c'était son oncle à elle, le propre frère de son père, ce Tiburce des vins et spiritueux qu'on savait si riche et si avare, mais qui était vieux et sans enfant. Une fois l'an, par l'effet d'une antérieure habitude, il envoyait une caisse de bouteilles, et c'était tout. Il fallait attendre, hélas, puisque cet homme ne pouvait être utile qu'à la manière des cochons, c'est-à-dire après sa mort. Le Grigou, par malchance, ne semblait pas vouloir crever, et les années passèrent ainsi. Justine, se voyant vieillir elle-même, luttait avec rage, et Lépinoche, visiblement dégoûté, se cachait à peine de chercher ailleurs. Il devenait même insolent. Je n'ai pas su tous les épisodes ou péripéties, mais à coup sûr, la pauvre fille brûlait trop pour avoir jamais refusé quelque chose à son misérable amant, et je crus, plus d'une fois, remarquer en celui-ci la blague féroce, la cruauté lâche d'un bel âtre qui n'en est plus à solliciter quoi que ce soit et qui n'a rien donné pour tout obtenir. Un jour, on vint en toute hâte me chercher de la part de cette malheureuse qui voulait me parler seule à seule avant de mourir. Le prêtre que je rencontrais dans l'escalier parut heureux de me voir. Il était fort pâle et m'affirma que ma présence le délivrait d'un grand poids. Puis il s'en alla me suppliant d'être charitable. Je revenais à peine d'un grand voyage et je n'avais pas vu Justine depuis quelques mois. J'eus peine à la reconnaître, tellement elle était devenue belle sous les griffes de la mort. Je ne retrouvais que les yeux, quels yeux! Dans une face toute blanche où passaient des ombres des clartés, comme si on eût promené devant elle un flambeau. Les lèvres, absolument décolorées, n'étaient visibles qu'en opposition à la ligne sombre des dents noircies par la fièvre. Tout le reste indistinct, unifié, fondu dans cette blancheur presque nitide, presque lumineuse, un bloc d'albâtre poli réverbérant un tapis de neige. Les cheveux avaient disparu dans une ample coiffe. Je suis sûr de n'avoir senti en cette occasion que de la pitié, la plus déchirante pitié de ma vie, surtout lorsqu'elle me parla. Plus tard seulement, je devais sentir la beauté surnaturelle de cette configuration de l'épouvante et de la douleur. Elle m'attendait, assise dans son lit. « Monsieur, » dit-elle à voix basse, très basse, « je viens de recevoir l'extrême onction et je vais mourir. Dieu est très bon et j'espère qu'il ne me regrettera pas. » Qui ne me rejettera pas. Je vous ai prié de venir parce que vous êtes un ami véritable et que vous accomplirez, j'en suis certaine, ce que vous demande humblement un cœur désolé. Personne, excepté le prêtre qui sort d'ici, ne sait encore ce que j'ai fait. Quand je serai morte, tout le monde le saura, et ce sera une honte terrible. J'ai ruiné plusieurs personnes qui avaient confiance en moi et que j'ai trompées odieusement. Depuis 3 ans, ma vie n'a été qu'une imposture, un mensonge de tous les jours, de toutes les heures. J'ai fait croire à d'anciens amis de la famille que nous n'étions pas ruinés, ma mère et moi. Alors on m'a prêté des sommes importantes que j'ai jetées dans la spéculation et que j'ai perdues. Je faisais, sans y rien entendre, mais avec une obstination de damné, le trafic des valeurs de bourse dans l'espérance de gagner une fortune. Vous comprenez, je voulais devenir riche pour celui que j'aimais à la perdition de mon âme, que j'aime encore et pour qui je meurs inutilement. J'ai volé de très pauvres gens. Une fois, monsieur, j'ai dérobé à une vieille femme infirme et presque aveugle quelques titres ou obligations qui étaient tout son bien, et je les ai remplacés par des prospectus en papier de couleur. Cette chrétienne qui me chérissait sera forcée de mendier son pain. Et comme je perdais continuellement, j'étais prête à tous les crimes dans l'illusion de me rattraper. Enfin, je dois plus de 80 000 francs. Mon oncle seul pourrait les payer, mon oncle riche, dont j'ai souvent désiré la mort. Allez le trouver, je vous en supplie, aussitôt qu'on m'aura mise dans la terre, et dites-lui bien que c'est moi qui meurs, et que je meurs épouvanté de toutes ces malédictions sur ma pauvre tombe. Épouvanté! L'agonisante poussa un grand cri, et me jetant les bras autour du cou, aboya ces derniers mots que j'entends encore. « Oh, si vous saviez, si vous saviez ce que je vois !» C'était la fin. Je fus forcé de me délier du cadavre dont les ongles m'entraient dans la chair et dont les yeux, incroyablement dilatés, regardaient toujours. L'oncle, naturellement, ne paya rien, et l'épinoche à qui je racontais cette mort quelque temps après, m'avoua qui trouvait tout cela bien triste, vraiment. 4 ans plus tard, il épousait la fille d'un larbin de haut parage, une femme honnête, celle-là, qui réprouve toutes les démences et ne lui permet plus de me fréquenter.